Radio Grande. Pam 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 pam.
J'ai glissé, chef.
Figurez-vous que Thérèse n'est pas moche. Elle n'a pas un physique facile.
J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent.
Quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute.
Tu me sens le cœur.
Si je connaissais le camp qu'a fait son tel bon.
Ce soir, je vais conclure.
La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant.
C'est pas son jour, dites-donc.
C'est jamais son jour.
Il n'y a pas d'hélice, c'est l'as.
C'est là qu'est l'os.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Et on met un petit peu de douceur dans cette radio. Ça fait toujours plaisir de la douceur.
Oui, dans ce monde de fous.
Dans ce monde de brutes. Eh bien, bonjour Pascal.
Bonjour Christophe.
Et on se retrouve pour une séance de cinéma très douce.
Ah, toujours. Toujours. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Grand Air. Soyez toutes et tous les bienvenus dans ce numéro 78 d'Entracte.
78. Ah oui, ça passe. Hein. Avec pour cette semaine, cette nouvelle semaine de ce mois de septembre, eh bien, tu as choisi cette sélection à voir.
Ouais, exactement. Oui, j'ai choisi sept films cette semaine. On va parler d'un film pour les tout-petits, là, Capitaine de Nicolas Hu et de Noémie Gruner. Hein. On va parler aussi du dernier film de Kenneth Branagh.
Très bien.
On va repartir sur les traces d'Agatha Christie.
Ah oui, c'est vrai, on en avait parlé il y a quelques jours.
Ah, on en parlait, oui, j'avais fait son portrait d'ailleurs.
Oui, c'est le troisième volet des
voilà,
aventures.
Et c'est à l'occasion d'Hercule. De Hercule Poirot. C'est à l'occasion de Mort sur le Nil.
Ah oui, d'accord, ouais. Voilà. Ouais.
Et donc c'est l'enquêteur. Alors au début, alors c'est marrant parce que j'ai découvert vraiment sur le tard. En fait, Hercule Poirot, pardon, n'est pas français.
Ah bon?
Il est belge.
D'accord.
Il est belge, j'ai trouvé ça.
Alors, je ne sais pas si c'est vraiment ce qui s'est passé dans les séries ou dans les films d'avant de Hercule Poirot. Il a une moustache, il a une barbe.
Ah oui,
il a été blessé à la guerre. Hein.
Oui. Mais c'est pour ça que tu le voyais dans Mort sur le Nil, en fait. C'est pour ça, en fait, au début, tu sais, quand on avait parlé du film, je t'avais dit, oui, mais là, il y a un passage pendant la guerre de 14-18 et tout.
Oui,
là, je reconnais pas du tout l'uniforme et tout.
Mais
oui, mais c'était l'uniforme belge.
Ah,
voilà pourquoi je l'ai pas reconnu l'uniforme, parce que j'étais persuadé qu'il était français.
D'accord.
Hercule Poirot. Alors voilà, on va rendre à César ce qui est à César. Hercule Poirot est belge, même si le nom est francophone évidemment. On va parler aussi du dernier film de Guillaume Niclou, La Petite. Hmm? On va parler d'affiliation. On va parler également aussi du dans le cadre du festival Play It Again hein, qui se déroule du 13 au 26 septembre.
On va parler festival.
Ouais, il y a plein de choses à voir. Hein. On va parler de deux films. On va parler d'India Song de Marguerite Duras pour les amateurs.
Je sais que t'es fan.
Très spécial. Mais c'est un film, c'est un ciné si tu veux un petit peu à la Godard.
Ah oui, d'accord.
Voilà, disons, faut pas être pressé.
Ça va être
longueur et tout. Oui. Faut aimer.
Le cerveau va chauffer.
On n'aime pas. Ouais. Voilà. Exact. On va parler aussi. On va partir au Sénégal. Ça c'est chouette. On va parler d'un film Afrique. De Ramata, Toula ici, Banel et Adama.
Très intéressant.
On va parler de tradition, tout ça. Voilà, ouais. Comment on marie la tradition et la modernité dans le Sénégal contemporain. Ça, c'est chouette. Ça, c'est un bon sujet. Mmh. Et on va parler aussi du film de Sofia Coppola. Pareil, toujours dans le cadre de Play It Again, Virgin Suicides. Et on va parler aussi du dernier film de Léa Domenac.
Alors
là,
surprenant.
Là, il y a sujet. Au début, je crois que c'était Madame Soubirou. Comme toi, je me suis dit, tiens, on va faire un film un peu religieux.
La Vierge,
du 19e siècle, pas du tout.
Bon.
Bernadette.
Mais qui tu es, Bernadette?
Alors, Bernadette. Alors chez moi, Bernadette, ce sont mes pommes de terre que je cultive amoureusement. Et on va parler de Bernadette Chirac.
D'accord, on a fait un biopic sur Bernadette Chirac.
Un biopic sur Bernadette Chirac, qui sera joué par Catherine Deneuve.
Ah oui, d'accord.
Alors comme je te disais tout à l'heure en rantaine, il y a la fille de Bernadette et de Jacques Chirac qui n'était pas contente.
Oui, Claude.
Elle a dit, Claude a dit non.
Qui était en fait l'ombre du président.
Jacques.
Hein. Ben oui. Celle qui dirigeait un petit peu
Alors, c'est en faisant
sa communication, notamment.
D'ailleurs, c'est en faisant mon papier que j'ai appris que Jacques Chirac a appelé sa femme la torture.
Ah oui, d'accord, ça je ne savais pas.
Mais c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'esprit, qui avait beaucoup d'humour. Et donc, dans le cadre de la sortie donc, du film Bernadette, j'ai choisi comme personnage de la semaine...
Un homme de théâtre et de cinéma.
Un homme de théâtre et de cinéma, oui, oui. Peut-être le nom ne va pas vous dire grand-chose. Michel Villermoz. Alors, au début, tu me dis, oh, mais qui est-il, qui est-il? Et c'est là que je t'ai dit, tu le verras, tu l'as vu dans Un long dimanche de fiançailles, de Jeunet. Et c'est celui qui joue le barman à un moment dans Paris, quand tu as Albert Dupontel qui rentre dans un bar. Et là, tu as un barman qui lui parle. Il a une main et un bras en bois. C'est Michel Villermoz. On le voit dans plein d'autres films, tu vois, mais c'était la première image qui me venait à l'esprit. Hein. Ouais. Donc voilà, on va parler un petit peu de lui, parce qu'il joue un petit peu dans l'ombre. Il a rarement eu des premiers rôles, il est toujours en second. Tu sais, c'est un peu comme Soir Narlo, voilà, qui arrive doucement un petit peu sur le devant de la scène. Moi, je trouve que c'est bien de parler d'eux.
Je pense qu'il a une bonne formation. Formation solide.
C'est quelqu'un, oui, c'est quelqu'un qui est issu du théâtre et de la comédie française. Hein.
Ouais,
donc, oui, tu as quelqu'un de confirmé quand même dans le jeu de comédien. Voilà. Et pour commencer aussi, j'ai pris un papier.
Oui, t'as quelques chiffres. Hein.
Ouais.
On avait parlé des chiffres locaux il y a quelques jours dans une émission précédente d'Entracte sur Radio Grand Air. Et là, tu as des chiffres beaucoup plus généraux. Hein,
je vous parlais des chiffres du CNC. Des chiffres nationaux. Alors évidemment, je ne vais pas donner des chiffres sur tel ou tel film, mais on va dire de la tendance générale.
Ouais.
Parce qu'il faut savoir une chose, mais vous le savez tous, hein, on sort de la période après Covid, et c'était très long pour relancer les Cinoches. Hein. Ça a pris 2 ans au moins.
Hein. Ouais, c'est vrai, on les relance encore. Beaucoup d'inquiétudes et d'incertitudes.
Ouais, il y avait ça aussi.
Il y a les cinémas qui ont fermé.
Tu avais le pass sanitaire, merci. Hein,
ouais, c'était compliqué.
Oui, c'était super compliqué. Je me rappelle, je crois que c'était avant qu'on joue... c'était le Top Gun, je crois. Oui, je crois que c'était avant qu'on joue Top Gun ou un film comme ça. Ah non, c'était le film français là, tiré de la série française là, le roi.
D'Artagnan.
Non, c'est pas D'Artagnan
non plus.
Je ne sais plus. J'arrive pas à me souvenir du film. Mais voilà, je sais que les gens se sont rués sur ce film-là parce que le lendemain était en application le pass sanitaire qui a fait quand même pas mal de dégâts, on va dire au niveau des fréquentations. Hein.
Alors, ouais, c'était compliqué hein, pour les jauges et tout, il fallait on pouvait pas non plus.
C'était Kaamelott.
Avec Kaamelott, il fallait laisser un fauteuil sur deux, je sais plus, enfin c'était compliqué.
C'était l'incroyable la bannière. Le pire dans tout ça, un truc que je supportais pas, c'était il fallait scanner les gens.
Ah oui, c'est vrai, ça aussi.
Et là on était dans un film.
Si on avait été vacciné ou pas.
Exactement. Et c'était horrible parce que quand je scannais les passeports des gens, tu avais leur nom, leur prénom, leur date de naissance et tout, je trouvais ça franchement indécent.
Ouais.
Vraiment, vraiment indécent. Alors moi, j'attendais que le truc il bipe, je regardais pas, tu vois, ça bipait, allez, ok, c'est bon. C'était horrible parce que c'était un rôle de contrôle.
Ouais.
Et c'est pas mon boulot, moi, ça. C'est pas pour ça que je suis là, quoi, dans tous les cas.
Ouais. En tout cas, aujourd'hui, c'est derrière nous.
Ouais, Dieu merci. Hein.
Ouais.
Oui, j'espère que ça va pas recommencer, les conneries, tu vois, parce que là c'est ça sera l'abattoir pour tout le monde, c'est sûr. Hein.
Voilà, en tout cas, on profite d'une belle toile et le cinéma, ça permet de s'évader aussi et de se retrouver dans un lieu différent que la télévision, c'est pas pareil. Hein.
Mais oui, ça re-sociabilise, va dire, les gens. Hein.
C'est une ambiance.
C'est un lieu d'échange, oui, bien sûr. Ouais. Quand tu vois des petits cinémas comme ça, tous les gens se connaissent.
Bah oui.
Tu vois, les gens, ils s'assoient. Moi, je vois, encore ce soir, il y a des gens qui sont assis sur les canapés, ils attendaient des amis, voilà, ils ont discuté, ils sont allés dans la salle de cinéma, et je sais quand ils ressortent, ils rediscutent, voilà, on se sociabilise. C'est pas en rentrant dans un supermarché que tu vas sociabiliser, hein. Même quand tu croises tes voisins, t'as pas envie de glander, discuter le bout de gras, voilà, je veux dire, c'est pas l'endroit génial pour ça, quoi.
Ouais.
Donc voilà, c'est important, les lieux comme ça, c'est un lieu d'échange, de culture, où on peut discuter, puis les gens, ils prennent le temps des fois de discuter avec nous aussi, hein. Et nous de discuter avec eux,
ouais.
Parce que ce n'est pas que des cartes bleues, ce n'est pas que des portefeuilles ambulants, hein. On a quand même des bonnes relations, et ici les gens sont vraiment super sympas.
Ah,
franchement, les gens du pays foyen, et ailleurs hein, d'ailleurs ici, hein. c'est moi je vois rarement des gens énervés, chiants et compagnie, il y en a évidemment, tu penses bien, sur 50 000, tu vas en trouver quelques-uns, mais sinon le pourcentage il est infime.
Ouais.
Il est infime, les gens ils y arrivent, ils ont tous le sourire, ils sont contents de te voir, voilà, ils discutent, et ça c'est chouette. C'est chouette, c'est là aussi que tu apprécies de faire ton travail, que tu fais plaisir aux gens. Et c'est énorme, hein. Tu as la satisfaction de faire du bon travail, on va dire.
Exactement.
Et c'est chouette.
Alors, ces chiffres, Pascal, que disent-ils ces chiffres?
Alors, 91,8 millions de tickets ont été vendus dans les salles au cours des 6 premiers mois de l'année 2023, a annoncé le CNC. Il y a quelques jours, soit 26% de plus qu'en 2022, ce qui est pas mal. Hein.
Ah oui.
En 2022, on était à 73,1 millions. Hein. Mais 12% de moins que la moyenne 2017-2019. La France, et tu vas voir, hein, les pays émergents au niveau cinématographique, la France est, avec l'Allemagne et le Japon, le territoire qui affiche la meilleure reprise, note Éric Marty, directeur général de Comscore France. Si les résultats du mois de juin ont quelque peu refroidi le secteur, ils ne doivent pas occulter la belle dynamique observée depuis début janvier. Menée par la continuation d'Avatar, La Voix de l'eau, Babylone, Tirailleurs, puis Astérix, Obélix, L'Empire du Milieu, Alibi.com 2 ou encore Creed 3, Bon Crime ou Scream 6, la fréquentation du premier trimestre s'est révélée des plus encourageantes avec 48,6 millions d'entrées enregistrées, soit 31% de plus donc par rapport au premier trimestre 2022. Et donc la semaine du 15 février avec Astérix et Alibi a été la plus prolifique du semestre avec 4,9 millions de spectateurs, ce qui est énorme. Hein. Ensuite, à partir du 1er mars, le marché a constamment été au-dessus du niveau minimum à semaine équivalente de la période 2015-2019. Preuve que la France avait retrouvé des niveaux de marché, explique l'analyste. Depuis le 4 avril, la progression s'est poursuivie avec davantage de variations, mais nous gravitons autour d'un niveau médian de la période 2015-2019 avec de vraies belles semaines. Pendant trois semaines mi-avril, nous sommes tout le temps restés au-dessus des 4 millions d'entrées hebdomadaires. Portés entre autres par des gros films là, Super Mario Bros, qui est le plus gros succès de l'année, avec 7,3 millions de tickets écoulés, hein, et Les Trois Mousquetaires et D'Artagnan, ainsi que Les Gardiens de la Galaxie 3. Et la fréquentation a ainsi dépassé pour la première fois les résultats pré-Covid, successivement en avril avec 3%, puis en mai à plus 0,9%. Les jours fériés et ponts ont été particulièrement bénéfiques au marché cette année. Donc pour l'analyste, le marché est dans un fonctionnement de reprise saine avec de réels succès dans toutes les catégories de films en attestent, outre le Mario d'Universal ou les grosses productions de Pathé, les performances de Je verrai toujours vos visages, puis d'un million d'entrées, les petites victoires, Suzume ou La famille Azada, et autres sur la Damante. En se plongeant encore davantage dans les chiffres, on note que 360 films sont sortis pour la première fois au cinéma au cours du premier semestre, d'après les données du CNC. Environ 35 films ont franchi la barre des 500 000 entrées, soit 10%, quand quelques 250, donc 70%, n'ont pas atteint celle des 100 000 billets. Et donc, comme il le dit, il y a une inquiétude générale sur le cinéma d'auteur, où les plafonds ne cessent de diminuer. C'est là un petit peu l'épine dans la fréquentation, c'est que les films ASC sont un petit peu moins fréquentés. Donc il nous dit, un film qui faisait 200 000 entrées n'en fait plus que 100 000. Un qui tutoyait les 80 000 doit se contenter de 30 000, s'inquiéter le mois dernier, dans nos colonnes, Jean Labbadie, fondateur du Pacte. Donc voilà, c'est la petite inquiétude, on va dire, des études là, qui portent le CNC, c'est que c'est vraiment les petits films, on va dire, ont moins de dynamique qu'ils avaient il y a quelques temps.
En tout cas,
ça, c'était avant le Covid.
Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que tu le disais il y a quelques instants. Quand on regarde à la loupe, en fait, les films qui sont sortis, on a eu pas mal de productions françaises qui ont bien marché, quoi, en fait.
Oui, oui, bien sûr. Oui, il y a des films qui ont une super carrière. Ouais. Et je parle des petits films classés ARC. Effectivement, moi, je le remarque.
Ça, c'est. Ouais.
Je le remarque aussi.
Ouais, ouais.
Je le remarque aussi. Je le vois. Avant, je faisais des très bonnes séances à 18h sur ces films-là. Là, ça va être tendance à baisser. Alors évidemment, l'été, c'est pas forcément la période où tu as une bonne analyse des choses, parce que c'est quand même vraiment tourné vers les enfants, comme je l'avais dit une fois.
Oui.
Mais on va voir un petit peu cet automne. Là on n'y est pas encore. Là, on est dans une petite fréquentation. Hein, le temps que tout se remette en place, on a passé un super été. Hein. Mais on le sait tout septembre. Les vannes se ferment un petit peu. Et tu vas voir, les gros films vont ressortir en novembre. Hein, j'en veux pour preuve le.
Oui, on en parle.
Le Napoléon
avec
Ridley Scott.
Ouais.
Bon, tu vois,
il a Joaquin Phoenix.
Il a choisi le 22 novembre. Et c'est là que commence. Ça va être les vacances de la Toussaint.
Jusqu'à décembre.
Et c'est là que commence un petit peu les sorties, les grosses sorties, quoi. Voilà. Moi, je dis, faut rester confiant. Hein, faut surveiller un petit peu ça au niveau des films ARC. Voilà, j'espère que ça va quand même se redresser un peu plus. Hein. Mais on dirait que vraiment la période Covid a vraiment érodé, on va dire, les spectateurs, le nombre de spectateurs sur ces films-là. Là, ça reste un petit peu compliqué pour l'instant, quoi. Voilà un petit peu pour vous donner la couleur, la température du cinéma français.
Toujours intéressant, ouais. Toujours intéressant de savoir un petit peu où on va. Exactement. Et ce qui est relativement positif, c'est que les chiffres sont bien sûr toujours en,
les chiffres sont bons. Alors oui, hausse, alors à la brèche, tu parles.
Ouais.
Oui, oui, les chiffres sont bons à la brèche. Oui, les chiffres sont en augmentation. Alors évidemment, on a une forte augmentation du grand public. Mmh. Voilà, du grand public qui vient de plus en plus nombreux, on va dire, pour plein de raisons. Il y a des gens qui viennent d'autres ciné, qui préfèrent venir à la brèche parce que, voilà, pour des raisons de géographiques, financières, aussi du calme dans les salles, voilà, de la propreté, de plein de choses. Hein. Il y a qu'à les écouter parler. Hein.
Et puis les horaires aussi, hein, vous avez des horaires un petit horaires, peu décalés.
Oui.
Les séances à 18h sont très appréciées.
Parce qu'on peut aller voir un film à 18h.
Oui, exactement.
C'est à moitié prix, c'est 5,80€.
Voilà. Je connais un auditeur qui est un local aussi, qui vient souvent à 18h, il en voit plusieurs.
Oui.
Et il apprécie parce qu'après il peut manger tranquillement.
Exactement,
et puis
oui,
faire autre chose.
Heures, voilà.
Ouais. Il a le temps, et 18h c'est l'heure où généralement on est à la maison, on a un petit peu de temps devant nous et on peut aller au cinéma.
Voilà. Parce qu'à 20h t'es sorti et puis tu peux. Tu as ta soirée à toi.
Exactement.
C'est vrai qu'il y en a qui préfèrent consommer comme ça le cinéma. Et puis, après, c'est moins cher. Et surtout, t'es au calme. Hein.
Ouais.
Tu ne fais pas la queue. Dire, c'est aéré. Dire, c'est,
exactement.
C'est quand même plus souple. Pour ceux qui n'aiment pas trop la foule, c'est pile poil.
Exactement. On va commencer alors le sommaire, hein, puisque tu as choisi. Voilà, on en a parlé. Mais on va commencer par Capitaine.
Capitaine, oui. Donc c'est un film. Alors c'est deux petits films. Hein. Le programme dure 52 minutes. Hein, c'est à partir de 6 ans. Animation famille aventure de Nicolas Hu, Noémie Gruner et Selena Pick. Donc le premier, donc il s'appelle Moulfrit de Nicolas Hu.
C'est bon. C'est bon les moules frites.
Oui. Donc, donc c'est l'histoire une fille de 9 ans qui vient rejoindre sa mère installée depuis peu sur une île bretonne où elle a trouvé un emploi de serveuse dans un restaurant. Quand elle arrive, Noé donc découvre que tous les enfants de l'île se connaissent depuis toujours et qu'ils ont une vie, ils ont une vie plutôt facile et qu'ils y font tous de la voile. Voilà, un petit peu une immersion chez les Bretons, dans l'univers voilà, du bord de mer. Elle a découvert un petit peu des enfants du coin. Et l'autre qui s'appelle Les Astres Immobiles, c'est l'histoire de Shanga qui a 9 ans et qui doit préparer un exposé sur l'espace avec son meilleur ami. Elle ne parvient pas à trouver le temps nécessaire puisqu'elle est sans cesse sollicitée par ses parents comme traductrice. Et ces derniers ne parlent pas français et sont dépendants de leur enfant. Ils ne se rendent plus compte du poids qu'ils font peser sur elle. Changa va chercher à s'émanciper de sa famille et son envie d'espace et son enthousiasme naturel l'aideront à franchir le pas. Voilà aussi, très bon sujet aussi. Avec des parents, justement, un petit peu expatriés qui ne parlent pas français. Souvent, on en a rencontré. Moi, j'en rencontre régulièrement.
Ah oui?
Oui, des parents qui ne parlent pas du tout français. C'est l'enfant qui commande les billets de cinéma.
Ah oui, c'est marrant, ça. C'est pratique.
Et alors, on se retrouve un petit peu dans le même scénario, quoi.
Ouais. La capitaine, alors,
donc
à voir,
hein, cette semaine à partir de 6 ans. Hein.
On va bien sûr enquêter. Alors, on n'est plus sur le Nil, hein, cette fois-ci. On va aller à Venise. Mystère à Venise, c'est un autre univers des célèbres enquêtes.
D'Hercule Poirot, le belge.
Et ouais.
Oui.
Et là, on va aller dans le milieu un petit peu plus. On va dire. Pas satanique, mais c'est plutôt.
Venise.
Oui, Venise, mais oui. C'est en fond de...
Ah, sur son film d'épouvante.
Ouais, je crois.
Oui, il a voulu. Non, mais il a voulu comme ça.
Ah oui, c'est ça.
Oui, il a absolument voulu comme ça. C'est un thriller, un policier, un policier drame, un thriller. Hein, de Kenneth Branagh, un film anglo-américain.
Avec un Irlandais.
Avec un Irlandais, oui, absolument. Au niveau des acteurs, évidemment, on va retrouver Kenneth Branagh, qui joue avec Hercule Poirot, je trouve que ça lui va très bien. On va retrouver Tina Fey, Camille Cotin.
Ah ouais, très
dont
bien.
On a parlé il n'y a pas très longtemps.
Ouais.
Kelly Reilly aussi, qui est assez connu. Jamie Dornan, Michael Yu, Jude Hill et Ricardo Scamarcio. Donc Venise, ville de la Toussaint, quelques années après la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est là que vit désormais le célèbre détective Hercule Poirot, aujourd'hui retraité.
Ah, il a pris sa retraite. Ouais, c'est vrai qu'il devait prendre sa retraite, oui.
Après avoir consacré sa vie à élucider des crimes et avoir été témoin de ce qu'il y a de pire chez l'être humain, il a renoncé à sa vocation d'enquêteur. Et s'il fait tout pour éviter d'être confronté à des affaires criminelles, ce sont souvent elles qui les rattrapent.
Ah oui.
Donc Poirot reçoit chez lui une vieille amie, Ariadne Oliver, la plus grande écrivaine de romans policiers du monde, qui lui assure que le motif de sa visite n'a aucun rapport avec un crime. Elle souhaiterait donc qu'il l'accompagne à une séance de spiritisme et lui permette de trouver qu'il s'agit d'une imposture. Intrigué, Poirot accepte à contre-cœur d'y assister et se retrouve alors dans un palais décrépit et soi-disant hanté, appartenant à la célèbre cantatrice Rowena Drake. Lorsque l'un des participants est sauvagement assassiné, toutes les personnes présentes deviennent des potentiels suspects. Le détective belge se retrouve une nouvelle fois plongé dans un monde sinistre d'ombre et de secrets.
J'aime bien le secret.
Et en plus, ça doit le faire à Venise. T'imagines les décors?
Ah ouais, c'est super.
Ça va être vraiment, vraiment extra.
Après, les pyramides.
Ouais, il avait fait fort pareil au niveau des décors.
C'est vachement bien.
Alors, évidemment, derrière, il y a Disney, tu sais, qui pousse. Hein.
Ah oui.
Avec un bon portefeuille bien garni, donc ça aide pour faire des belles images. Donc, c'est la nouvelle aventure donc Hercule Poirot de Kenneth Branagh qui joue avec les codes de l'horreur. L'un des producteurs exécutifs, donc James Pritchard, en dit un peu plus. Le cinéma a toujours aimé les détectives, et ce n'est certainement pas Agatha Christie qui pourra dire le contraire. Incarné par une pléthore de comédiens pour le grand écran et la télévision, son petit moustachu a eu l'occasion de résoudre bon nombre d'enquêtes pour les caméras. Il faut dire que l'œuvre littéraire dont Poirot est le protagoniste ne manque pas de ressources, puisqu'il apparaît dans quelques 33 romans et 51 nouvelles de 1920 à 1975. Après le crime de l'Orient Express et l'indigent mort sur le Nil, Kenneth Branagh et le scénariste Michael Green ont décidé de transposer cette fois-ci le plus méconnu, donc Fête du Potiron. Initialement paru, c'est le titre initial.
Ah oui, d'accord.
Oui. Initialement paru en 69. Pour cette troisième aventure, le détective se lance dans une enquête qui devrait plutôt jouer avec les codes de l'horreur que de l'intrigue policière. Et oui, ça fait peur. Ça fait peur. À noter qu'en dépit donc de ces deux premiers crimes contre Agatha Christie, Kenneth Branagh semble avoir récolté une salve de premiers avis positifs pour son mystère à Venise. Les spectateurs qui ont eu l'occasion de découvrir le film en exclusivité en ont eu justement souligné la dimension horrifique. Et si, pour le moment, on demande à voir l'un des producteurs exécutifs et accessoirement arrière-petit-fils d'Agatha Christie est revenu sur la question pour Screen Rant. Et il nous dit « Au début, je n'ai pas bien saisi pourquoi Branagh et Green voulaient adapter la Fête du Potiron. Je ne comprenais pas ce qu'ils comptaient en faire. Je pense que ce qui après s'est principalement motivé Kenneth, c'est de pouvoir jouer avec les genres. Il voulait ajouter des éléments horrifiques et je pense qu'il s'est dit que la Fête du Potiron serait une bonne base pour ça. Il voulait prendre les libertés par rapport au roman original et à l'intrigue. Et j'estime que c'est pour le mieux. » Donc il a Kenneth Branagh, donc sur le tournage, il a créé une atmosphère et une tonalité extraordinaire qui ajoute beaucoup aux genres policiers plus traditionnels. Et regarde, écoute bien, alors ça me fait marrer. Et il a délibérément cherché à faire peur aux autres acteurs. Il ne leur disait rien de ce qui allait se produire. Tu vois le truc? C'est comme si tu étais dans un train fantôme, c'est à la fois.
Ouais.
Pareil. Alors il y a eu des moments où les sentiments de choc et de peur sont authentiques et je trouve que ça se ressent bien à travers l'écran. Il les a vraiment fait flipper. C'est une expérience très Agatha Christienne. Pour rappel, c'est la toute première fois que cet écrit de l'auteur britannique se voit porté au grand écran, de quelque façon que ce soit. Pour ceux qui n'auraient donc pas été trop traumatisés par Mort sur le Nil en 2022, Mystère à Venise investira les salles obscures à compter du 13 septembre. Oui, à la Brèche aussi.
On va frissonner. Et
absolument, oui, oui.
Dans son fauteuil.
Vous allez voir des acteurs flippés en vrai.
On découvre ensemble la bande-annonce et on se retrouve juste après.
Hercule Poirot, j'ai quelque chose pour vous. Je suis la personne la plus intelligente que je connaisse et je n'y comprends rien. J'ai besoin d'un deuxième cerveau.
Vous, vous avez une idée derrière la tête.
J'ai vu des milliers de médiums, tous des charlatans.
Je ne crois pas aux médiums.
Venez assister à une séance. Dévoilez l'escroquerie.
Détective, vous venez pour me discréditer, n'est-ce pas? Mais moi, je parle aux morts. Je donnerai tout pour entendre ma fille. Si quelqu'un veut s'exprimer, nous sommes là. À l'écoute.
Maman? Alicia? Mais que se passe-t-il?
Vous n'allez pas nous enfermer ici. Une femme est morte. Personne ne sortira tant que je n'aurai pas le coupable.
Un fantôme l'a tué.
Il doit y avoir une explication rationnelle à tout cela.
Admettez pour une fois que la situation vous dépasse.
Non !
Vous disiez...
Quelque chose a tenté de me tuer.
Vous n'oserez pas me suspecter. Nous sommes de vieux amis.
Tous les meurtriers ont de vieux amis. Personne ne sortira avant que je sache si les morts tuent les vivants. Tu étais caché ici depuis tout ce temps?
À qui parlez-vous?
Ah, je crois qu'on va frissonner là, mon cher.
Dans l'ambiance, quand même, t'as vu
la musique.
Oui, voilà. Oui, parce qu'on est sur une schématique Agatha Christienne.
Ouais.
Mais on bascule dans Amityville.
Ah, mais c'est ça.
C'est la maison des esprits, tu sais. Et imagine, t'as vu le décor qu'il y a.
Ah, ouais, non, mais
imagine quand il a commencé à tourner et qu'il a commencé à surprendre ses acteurs.
Ouais.
Au bout d'un moment, c'est une espèce de parano total, tu vois, tu devais pas être bien. Voilà, c'est quand même marrant comme projet, hein, j'aime beaucoup.
C'est original. C'est original et ça va changer du reste, hein, en fait.
Ah oui.
Ouais,
c'est moins poétique que Bord sur le Nil.
Ah, c'est clair.
Là, c'était au grand jour, avec des belles couleurs, on était à Saqqara, on était dans tous les grands sites, on va dire égyptiens, tu vois, la lumière du soleil, et là, c'est tout le contraire. D'ailleurs, Venise, on n'a pas. T'as vu, t'as pas une vue de Venise
non,
le jour.
Non, on est dans le noir.
Ah, hein, t'es dans le noir total, même dans la rue.
T'as les murs qui tremblent et t'as des voix, t'as des têtes qui tournent.
Ouais.
T'as les tables qui bougent.
Donc j'aime bien le projet.
Ouais.
J'aime bien le projet.
Original. À suivre.
À suivre et à découvrir la Brèche cette semaine, bien sûr.
Mystère à Venise.
Mystère à Venise.
Allez, on va changer. De lieu, peut-être.
On va changer de lieu, on va revenir un petit peu la lumière. Hein, oui, la lumière, surtout.
Avec des ondes positives.
Voilà,
la petite.
On va parler de La Petite, le dernier film de Guillaume Niclou, un film franco-belge d'1h32, c'est un drame. Hein, avec Fabrice Lucchini, Mara Taquin, Maud Villers et Virl Baetens. Donc, c'est l'histoire de Joseph qui apprend que son fils et le compagnon de celui-ci viennent de périr dans un accident. Ils attendaient un enfant via une mère porteuse en Belgique. Et donc, que va devenir le futur bébé, qui est en route, en fait? Joseph en est-il le grand-père légitime? Porté par la promesse de cette naissance qui va prolonger l'existence de son fils, le sexagénaire part à la rencontre de la jeune Flamande, au caractère farouche et indomptable. Voilà un drôle de scénario. Donc, là, j'ai pris un petit peu... Alors, Fabrice Lucchini, là, j'ai pris un papier qui était dans la presse, dans le Sud-Ouest, hein. Parce que Fabrice Lucchini était à Mérignac.
D'accord.
Pour la présentation du film, oui.
Et il est passé à Mérignac.
Oui, comme Sud-Ouest nous dit, la salle de projection du Mérignac Ciné affichée complet lundi 4 septembre pour l'avant-première du film La Petite de Guillaume Niclou, en présence de l'acteur Fabrice Lucchini. Le film, dont une partie du tournage a été réalisée dans la région bordelaise, est soutenu par le département de la Gironde et la région Nouvelle-Aquitaine. Et comme Lucchini nous dit, j'ai un lien avec cette région où j'ai tourné beaucoup de films et joué souvent au théâtre et où on trouve l'art de vivre, a confié l'acteur. Vous n'allez pas voir une comédie ce soir, mais un film sensible, comme il a dit donc au spectateur. Hein. On est toujours content des films que l'on tourne, mais celui-ci met en avant la filiation et il est touchant. Il paraît que l'annonce d'une naissance remplace les antidépresseurs. Donc Fabrice Lucchini a présenté le film avec passion, félicitant les spectateurs d'avoir choisi de venir assister à la projection. Et tu vas voir ce qu'il leur dit. Ici, ce n'est pas un festival, vous avez choisi de venir voir ce film. L'acte de venir au cinéma ou au théâtre, c'est un miracle. Et vous allez découvrir une jeune actrice très prometteuse. Voilà un petit peu pour vous parler un petit peu de la présentation. Parce que sur Allociné, franchement, j'ai pas trouvé de papier. Donc j'essaie de trouver un petit peu une autre illustration.
Donc, voilà, la petite, donc, à voir avec un Fabrice Lucchini qui revient en tout cas, et ça fait plaisir de le retrouver à l'écran. On aime bien l'acteur.
Ouais, en plus, dans le film, tu vois, on le retrouve vieilli, avec des fringues, des vieilles fringues et tout. Ça le change, hein, vraiment. Hein. Ouais. D'habitude, il est plutôt un petit peu titi parisien. Là, ils ont vraiment changé son apparence et c'est bien, ça colle assez bien au personnage, hein, quand on le voit dans le film annonce. Hein.
Et justement, on va découvrir ensemble la bande originale, hein, de ce rendez-vous et on se retrouve juste après.
accepter qu'il n'y ait aucun survivant peut prendre du temps.
C'est pas possible.
Toutes mes condoléances pour votre fils.
J'ai toujours su qu'il était homosexuel. Mais ça m'était égal.
Ils attendaient un enfant ?
La mère porteuse n'était pas dans l'avion, le bébé est vivant.
Des garçons tenaient à ce qu'elle reste anonyme.
Mais on va quand même pas abandonner ce bébé. La moitié du sang d'Emmanuel, c'est pas rien. Rita Van de Velde.
Elle vit à Gand, elle a une petite fille de 9 ans.
Rita Van de Velde. Not comprendre, nage, nicht.
Et elle vend des vélos, c'est tout ce que t'as sur elle.
Bonsoir, je suis le père d'Emmanuel.
Barrez-vous de chez moi.
Non, mais je suis comme vous, je suis une victime collatérale.
Comme moi, non, je crois pas, non. Pas comme moi, non.
Non, non, ce que je veux
non,
dire.
Non, je devais toucher la moitié du cash au deuxième trimestre, et puis le reste à la naissance. Là, juste, je me retrouve avec ça. Ça, je peux pas m'en débarrasser, ça, c'est cadeau.
Maman, il y a le type de l'autre jour qui revient.
Mais c'est pas vrai, faut vous le dire comment, là.
Je veux juste savoir comment va le bébé. Je remplace mon fils, quoi.
Il était moins relou que vous.
Vous voulez écouter le cœur ?
Vous allez l'élever chez vos parents ?
Je la mettrai à adoption, j'ai pas le choix.
On peut pas abandonner cet enfant, enfin, il a des parents.
Bah non, justement, non.
On trouverait à travers cet enfant un lien avec nos fils.
Mais moi, je me souviens, c'est quoi une nuit avec un enfant ? À 17 ans, j'ai cru que j'allais la jeter par la fenêtre.
Faut passer à autre chose, papa.
C'est ma petite fille. Je ne lâcherai pas. C'est comme ça.
Voilà, la petite avec le retour de Lucchini sur les écrans, mon cher Pascal.
Voilà, ce sera donc à découvrir à la Brèche cette semaine. Donc la petite, avec alors, l'immense Fabrice Lucchini.
Absolument, qui aime bien, on l'a bien compris, notre région. On va parler d'Indiana Song aussi à la Brèche cette semaine.
Alors, India Song.
Oh oui, pardon, India Song, rien à voir avec Indiana Jones.
Ouais, c'est un hybride entre les deux.
C'est ça, ouais.
On va parler de Marguerite Duras. Alors évidemment, India Song s'inscrit dans un festival, donc c'est le festival, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, c'est le festival Play It Again. Alors évidemment, il comprend des films pour les plus vieux, mais aussi des films pour enfants, tels que Le Voyage de Chihiro,
ouais.
Collar Goal.
Ah oui,
s'inscrit aussi dans cette
C'est vrai,
cette
on en avait parlé la semaine dernière.
Oui, absolument. Marguerite Duras, alors, êtes-vous fan?
Oui, c'est... Attention au cerveau.
Moi j'ai vu le film annonce, moi ça me laisse toujours pensif, mais... Voilà, c'est des films qui font partie du patrimoine et voilà, ils sont à découvrir ou à redécouvrir. Donc c'est un film français de 2 heures, c'est une romance, un drame. Hein. Donc on va retrouver au niveau des acteurs, donc Delphine Seyrig, Michael Lonsdale, feu Michael Lonsdale, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps.
Hein. Exactement.
Mathieu Carrière, Claude Manon.
Nom de la Rose.
Oui. Vernon Dobchef, Claude Juan et Didier Flamand. Donc on va aller à Calcutta. Nous sommes en 1937 et Anne-Marie Streeter épouse l'ambassadeur de France et entretient une relation amoureuse avec Michael Richardson. Un soir, au cours d'une réception donnée à l'ambassade, elle le retrouve et lui accorde quelques pas de danse. Malgré les invités se trouve aussi le vice-consul de France à Lahore, envoyé en disgrâce à Calcutta. Celui-ci aperçoit Anne-Marie et ne tarde pas à lui déclarer son amour passionné devant l'assemblée des convives scandalisés. Le lendemain, Anne-Marie a mystérieusement disparu. Alors, India Song a tout d'abord été créé sous forme d'un texte publié en 73 intitulé India Song de texte théâtre. Film que Marguerite Duras a rédigé à la demande de Peter Hall, alors directeur du National Theatre à Londres. Sans réel moyen financier pour tourner son film, Marguerite Duras a tout d'abord fait India Song une pièce radiophonique en 71 avec l'aide de son ami Alain Trutta, responsable des programmes dramatiques de France Culture à cette période. Pour cet enregistrement, c'est l'écrivain qui est ami de Marguerite Duras, Vivian Forrester, qui endossa le rôle d'Anne-Marie Streeter, et deviendra une des voix intemporelles du film. Bien que les personnages ne parlent pas, le tournage, qui a duré 12 jours, ne s'est pas pour autant déroulé dans un grand silence. Lors des prises, tout le monde parlait sur le plateau et parfois des magnétophones étaient utilisés, certains avec la musique, d'autres avec les voix des comédiens ou celles de Marguerite Duras. Bien que l'intrigue soit... Tu vas voir, ça c'est fort, hein. Bien que l'intrigue se déroule en Inde, il n'a pas été question de partir là-bas pour le tournage. Et oui, quand t'as pas de financement, faut rester calme.
Oui, ça.
Tous les lieux de tournage se trouvent en Île-de-France. L'hôtel des îles est à Versailles. Le bois de Boulogne a permis de filmer le panoramique au-dessus des îles du delta du Gange. C'est fort, là. Tu vois, là, il faut un gars qui soit costaud à la photo, hein.
Ah oui, c'est clair. Avec un peu d'imagination. Ouais. Beaucoup même.
Donc, l'actrice Jeanne Moreau, passionnée de musique et qui a chanté pour Viva Maria de Louis Malle et Peau de banane de Marcel Ophuls, est l'interprète de la chanson India Song, dont la musique rythme le film. India Song a été nommée 3 fois au César en 76, meilleure actrice pour Delphine Seyrig, meilleure musique pour Carlos D'Alessio et meilleur son pour Michel Vionnet. Dans son nom de Venise dans Calcutta déserte, Marguerite Duras réutilise l'intégralité de sa bande-son d'India Song tout en racontant une toute autre histoire, en filmant avec de longs travelling les extérieurs et les intérieurs d'une demeure délabrée. Oui, des longs travelling. Je crois que c'est... Et moi, je dirais des longs travelling silencieux. C'est vrai que elle aime beaucoup ça, Marguerite Duras. Mais j'en connais plein d'autres. Hein. Je pense que ça va faire partie aussi de cette nouvelle vague. C'est-à-dire cette autre manière de voir le cinéma, de l'exprimer. Voilà, c'est quelque chose de très conceptuel. India Song.
Soyez curieux.
À découvrir à la Brèche, donc, dans le cadre du festival Play It Again.
Eh bien, c'est le thé, Pascal. On enchaîne avec un autre rendez-vous cette semaine. C'est un rendez-vous aussi intéressant que tu vas nous présenter à la Brèche.
Ouais, hein. On voyage un petit peu et c'est super.
Ouais.
C'est super parce que des films africains, on n'en a pas.
On en parlait tout à l'heure.
On n'en a pas tant que ça. Oui, là, on a droit à un film franco-sénégalais hein, qui s'appelle Danel et Adama. Un film d'1h27, c'est un drame hein, de Ramata Toulaïsi. Au niveau des acteurs, on va retrouver Kadi Mané, Mamadou Diallo, Binta Racine-Si, Moussa So, Naïbel Diallo, Oumar Sambadia, Amadou Ndiaye et Amadou Adi Sall. Donc Banan et Adama s'aiment. Ils vivent dans un village éloigné, au nord du Sénégal. Du monde, ils ne connaissent que ça. En dehors, rien n'existe. Mais l'amour absolu qui les unit va se heurter aux conventions de la communauté. Car là où ils vivent, il n'y a pas de place pour les passions et encore moins pour le chaos.
Alors, on retrouve les pages, hein, parce qu'il faut savoir que nous sommes en direct. Et dans cette émission d'Entracte, c'est beaucoup, beaucoup de recherches. Et Pascal a aussi une mine d'informations qu'il a réussi à retrouver toujours sur le canapé.
C'est vrai que j'en ai beaucoup. Donc, le Banal et Adama, donc c'est le premier long métrage de Ramata Toulaïsi. Il est le fruit de son travail de fin d'études à la FEMIS. Elle a cependant attendu 7 ans avant de passer à la réalisation, car elle ne se sentait pas assez mature pour passer derrière la caméra. C'est pas rien. Ah c'est oui. Un drôle d'exercice. Hein. C'est pourquoi elle s'est tournée davantage vers l'écriture du scénario et a consigné une fois diplômée 2 scénarios, donc Cybèle et Notre-Dame du Nil. Et c'était en 2020 qu'elle franchit le pas en réalisant son premier court-métrage intitulé Pastel. Le thème de la folie donc, est capital dans le film avec Banel, la réalisatrice voulait montrer un personnage féminin dont la personnalité soit difficile à définir. Et comme elle nous dit, tout au long du film, je voulais qu'on se demande qui est vraiment cette femme étrange, une meurtrière ou bien une amoureuse, une femme sacrée ou un martyr. J'évoquais Médée, car pour moi, Banel est une sorte de Médée, une femme passionnée qui tue par amour. Donc j'ai grandi avec les films populaires et les blockbusters, et pour moi, le cinéma est synonyme de spectaculaire. Après chacun sa définition du spectacle. Pour ma part, j'aime composer mes plans comme des tableaux, confie Ramata Toulaïsi. Ses références sont d'ailleurs principalement littéraires et picturales. Elle apprécie le réalisme magique de Toni Morrison, la tragédie de Racine, la poésie de Maya Angelou, ainsi que Van Gogh, Edvard Munch, Kerry James Marshall, Amoako Boafo en peinture. Et donc elle a choisi des personnages non professionnels. Donc Kadi Mané qui joue Banel et Mamadou Diallo qui joue Adama sont, comme tous les autres acteurs du film, des non-professionnels. Le processus du casting, entamé 5 mois avant le début du tournage, a été long et complexe. Il s'est déroulé dans la région de Pau d'Or, au nord-ouest du Sénégal. Et Imane Dion, la directrice de casting, s'est concentrée sur les grandes villes de la région, mais aussi les villages qui les entourent. Le personnage qui a été le plus difficile à trouver est celui de Banel. La réalisatrice a repéré Kadi Mané par hasard dans la rue, 1 mois environ, avant le début du tournage. C'est un petit peu comme c'est pas franchement évident d'aller chercher des personnages pour incarner les personnages du scénario. Mais je trouve ça vraiment courageux de prendre des non professionnels.
Ouais, on avait déjà évoqué ce cas de figure pour d'autres films. Alors je ne sais pas si c'était en Iran ou dans des pays où le cinéma est pas forcément bien vu, enfin d'un œil.
Il est toléré. À l'Iran, oui, il est toléré. Oui, oui, il faut.
Je crois qu'il y avait, il y avait un casting comme ça, La Sauvage, qui avait été fait avec des comédiens qui n'étaient pas forcément professionnels.
Et, voilà. Et à chaque fois, moi, j'en ai vu des films comme
et
ça.
Le rendu est excellent.
Voilà, et le rendu est excellent justement parce que peut-être qu'ils sont plus libres.
Ouais.
Ils sont pas, on va dire enferrés dans leurs cours de théâtre ou je ne sais. Et peut-être que ça rend mieux. Alors, le film est en langue peule. Donc, Banane et Adama a été tourné en langue peule dans le Futatoro. Et comme la réalisatrice nous dit, ce qui m'intéressait dans cette culture peule, c'était son peuple, à la physionomie particulière et aux principes connus. Ils expriment leurs émotions par des regards et les silences. C'est un peuple qui est connu pour être digne, mais surtout très fier. Ce qui m'intéressait le plus, c'était de confronter un personnage tel que Banane, qui est passionné et expressif, à une telle communauté. Et puis esthétiquement, je trouvais beau de faire un film assez silencieux où les dialogues passaient plus par le corps et les regards que par la parole, souligne la réalisatrice. Voilà, un film africain, franco-sénégalais. Voilà, si vous voulez en apprendre un peu plus sur les us et coutumes donc de ce pays, je vous invite à venir découvrir donc ce film-là à La Brèche cette semaine. Banane et
Adama. Ça sera avec plaisir. On va revenir sur un chef-d'œuvre du cinéma qui était sorti il y a quelques années, je crois. C'était fin 90-2000. Sofia Coppola, qui était à la réalisation de ce film. Alors, ça s'appelle Virgin Suicide.
Virgin Suicide, oui, bien sûr. Un film américain de
dramatique.
C'est un drame,
ouais,
il est sorti en 99.
Oui, j'ai dit de 99-2000. Ouais.
Oui. Alors, évidemment, de Sofia Coppola, donc la fille de Monsieur Coppola, l'un des plus grands cinéastes. De cette planète.
Pure ADN familial.
Oui. Donc en 2003, elle avait réalisé déjà Lost in Translation, qui était pas mal.
Ouais.
Alors je passe d'autres films qui ont au moins été, on va dire, marquants. Donc elle a fait 29 films en tout, hein, Sofia Coppola, et 4 séries.
D'accord.
Donc au niveau des acteurs, on va retrouver Kirsten Dunst, qui est toute jeune à l'époque, hein. James Woods, Kathleen Turner, George Arnett, pareil, hein, qui est tout jeune, hein. Michael Paré, Scott Glenn, Danny DeVito. Et Giovanni Ribisi. Donc, nous sommes aux États-Unis dans les années 70. Cecilia Lisbonne, dernière née d'une fratrie de 5 filles, vient de faire une tentative de suicide. Pour changer les idées de leur Benjamin, les parents acceptent d'organiser une fête à laquelle sont conviés des garçons du quartier, depuis toujours fascinés par ces 5 sœurs à la beauté renversante. Au cours de cette soirée, Cecilia se jette par la fenêtre. Dès lors, les filles Lisbonne, au nombre de 4, vont être de plus en plus étouffées par leurs parents, super protecteurs, jusqu'à la tragédie ultime. Et oui, les parents, on les enferme dans la chambre.
Ah, ouais.
C'est une histoire dramatique. Et en plus, c'est un film qui marque. Mm. Déjà par la manière de filmer. C'est vrai que là-dessus, on n'a rien à dire. Les prises de vue sont absolument superbes. Même Scorsese le reconnaîtra dans la critique de ce film-là. La prise de vue est vraiment d'enfer. Et il y a tout. Il y a tout. Et le rythme aussi, qui est vraiment important. La musique qui va avec. Bref, c'est vraiment un très très bon film de Sofia Coppola. Dramatique, choquant. Choquant, et c'est vu à travers justement le regard de ces garçons-là, qui sont vraiment intrigués, et bien à la fin, qui sont, on va dire, terrassés par cette peste de réalité qui les rattrape. Parce que c'est vrai que les parents étouffent, ont littéralement étouffé leurs enfants. Et les enfants se sont échappés comme ils ont pu. Par l'eau. Et c'est là le constat de la fin qui est absolument terrible. Donc ce que je dis n'engage que moi. Je crois que c'est le meilleur film de Sofia Coppola.
Eh bien, vous noterez effectivement ce film, si vous ne l'avez pas vu. On pourra donc, le voir à nouveau sur les écrans de La Brèche.
Donc Virgin Suicide, c'est adapté de roman.
Ah oui.
Donc homonyme, donc le roman s'appelle aussi Virgin Suicide, de Jeffrey Eugenid, paru en 95. Outre Francis Ford Coppola, Sofia a fait participer des membres de sa famille au film. Ainsi a-t-elle engagé son frère Roman et ses cousins Chris Niel et Robert Schwartzman. Sofia Coppola, donc réalisatrice et scénariste, donc actrice, elle a joué sous la direction de son père dans The Outsiders en 83, Rusty James, Cotton Club en 84...
Ah oui.
Peggy Sue s'est mariée en 86 et Le Parrain 3 en 90. Oui, elle a traîné sur les plateaux. Et oui, elle tenait l'un des rôles principaux. Elle a également participé au Parrain en 72 où elle était le nourrisson baptisé dans une célèbre scène du film. Le nourrisson, c'était elle. et Opéra 2 en 74, où elle ne faisait qu'une très brève apparition. Styliste, elle a créé les costumes du sketch de Francis Ford Coppola de New York Stories en 90. Virgin Suicide est son premier long métrage. Elle avait auparavant réalisé un court métrage, Lick the Stars, en 98. Et oui, j'avais oublié que c'était son premier long métrage. Et c'est vrai qu'elle avait fait fort. Là, elle avait signé vraiment un grand film pour l'ouverture de sa carrière. Donc, l'avis de l'auteur, donc Jeffrey Eugenides, de toutes les adaptations, celle de Sophia était la mieux construite. Je pense qu'elle est plus intriguée par l'histoire des filles proprement dit que par le point de vue des garçons, ce qui donne ainsi des nuances différentes à l'histoire. En écrivant le roman, j'étais davantage concerné par les filles et Sophia l'a très bien compris. Lorsque Sofia Coppola débute à l'écriture du scénario, les droits du roman avaient déjà été cédés, ce qui n'entama en rien sa détermination. Son travail achevé, elle le soumit à son père, et oui, ça j'imagine, Francis Ford Coppola, qui avoue qu'il s'agissait de l'un des meilleurs scénarios qu'il avait lu depuis 10 ans. Bon, c'est le papa, c'est la fille, mais oui, le scénario est très bon, on peut pas lui enlever ça. Et il décida alors de produire le film au travers de sa société, donc American Zoetrope. La qualité du scénario convainc les ayants droit de changer d'avis. Ils cédèrent les droits du livre à la société de production. Ainsi est né en 99 Virgin Suicides,
ah oui,
de Sofia Coppola. À découvrir à la brèche. Moi, franchement, je vous invite, alors ceux qui l'ont pas vu et qui veulent prendre une grosse claque, je leur conseille de venir le voir dans une vraie salle et pas forcément sur une plateforme, parce que là, vraiment, il y a des belles images et la couleur est travaillée. Regarde ici, toi, l'affiche. Tu as l'affiche, mais là tu as juste une prise de vue d'une scène. Mais t'as qu'à regarder un petit peu les couleurs qu'il y a. On est en 70, hein.
Oui, oui.
Donc elle a voulu vraiment, coller aux couleurs de l'époque, comme si t'avais fait des photos dans ces époques-là. Tu vois, les années 70, la chromatographie, elle n'était pas terrible. Enfin, tu vois, c'était les appareils photo, ils faisaient des photos, approximatives. Enfin, les photos étaient pas, les couleurs n'étaient pas super bien rendues. On était loin du numérique encore, hein, on était encore en argentique. Et je pense que c'est ce qu'elle a voulu retranscrire dans son film. Et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très très bien.
À voir absolument.
À découvrir à la brèche.
Ce chef-d'œuvre. Alors là, un truc surprenant, franchement.
Oui.
On arrive aux élections présidentielles.
Oui.
Jacques Chirac est élu. Et dans l'ombre de Jacques Chirac, nous avons la première dame de France. Bernadette,
oui.
Bernadette qui va découvrir son rôle en fait, hein, au tout début, et
alors elle va ouvrir,
elle va se prendre, ouais, c'est ça.
Elle va ouvrir. Alors déjà pour commencer, ce film on l'aura en avant-première.
Ouais.
Donc il y aura une séance. Hein. Donc Bernadette, un film français d'une heure 32, une comédie de Léa Domédac.
C'est un biopic. Hein.
C'est un biopic. Alors,
mais elle a validé Bernadette.
Ah tu vas voir. Alors Léa Domédac, c'est son premier film.
D'accord.
Avant elle était scénariste, Léa Domédac. Ce qu'en pense Bernadette, je sais pas, parce que je crois qu'elle attend avec impatience d'acheter son ticket de cinéma pour aller voir un petit peu comment ça se passe. Mais Claude Chirac, comme je te l'avais dit, n'était pas très contente.
Ouais.
Et parce qu'elle a exprimé un petit peu son mécontentement dans la mesure où on leur a rien demandé. Alors, je sais pas comment sont construites les lois par rapport à ça. A-t-on le droit de faire un biopic sur quelqu'un comme ça, sans forcément lui demander.
D'accord, ouais.
Il y a un film pareil sur, il y a un biopic sur Bernard Tapie aussi qui va sortir.
Exactement.
Tu vois. Bon, je ne sais pas comment ça se passe au niveau des lois de ce côté-là. Quoi. Mais c'est vrai que Claude Chirac, oui, n'était pas contente, très contente. N'était pas très contente. Alors, je pense qu'ils sont impatients un petit peu de voir un petit peu c'est comment, sous quelle langue ils ont attaqué Bernadette Chirac, enfin son caractère surtout, parce que comme je le disais tout à l'heure, son mari l'appelait la torture. Hein.
Ouais.
Donc c'était voilà, visiblement c'était quelqu'un de strict à cheval sur le principe, qui avait une image qui était relativement austère. Bernadette, elle était vieille France, elle avait l'air vieille France, elle jouait pas forcément au début son rôle de première dame, même si j'imagine qu'elle devait œuvrer dans l'ombre de l'Élysée bien sûr. Mais enfin, on la mettait pas, son mari l'a pas mis sur le devant de la scène. Il a pas fait comme Sarkozy ou tu vois ce genre de ou Monsieur Macron, tu vois, qui de temps en temps met sa femme devant pour, on va dire, promouvoir certaines opérations ou certaines actions. Et je pense que ça a dû peser, on va dire, sur sa renommée, quoi. Et donc le film, je pense, il tourne autour de là. Donc au niveau des acteurs, évidemment, ça sera joué par qui? Catherine Deneuve.
Étonnant.
Catherine Deneuve qui va jouer donc Bernadette Chirac. Alors derrière, par contre, il y a des drôles de personnages. Des gens qui font rire quand même, parce qu'on a Denis Podalydès.
Ah oui.
Michel Villermoz. C'est pour ça que j'ai choisi Michel Villermoz. Sarah Giraudot. très grande actrice, Laurence Tucker, François Vincentelli, Lionel Abelansky, Artus. Donc je pense que ils vont pas l'attaquer sous l'angle dramatique. Hein. Donc quand elle arrive à l'Élysée, Bernadette Chirac s'attend à obtenir enfin la place qu'elle mérite. Elle qui a toujours œuvré dans l'ombre de son mari pour qu'il devienne président. Mise à côté car jugée trop ringarde, Bernadette décide alors de prendre sa revanche en devenant une figure médiatique incontournable. Donc, dans ce qui ressemble à un faux biopic, s'il est inspiré par la vie de la première dame, le film se veut plutôt une comédie. Madame Chirac, donc, qui a longtemps œuvré dans l'ombre de son mari, entend adoucir son image de femme froide et distante. Si l'on en croit les premières images diffusées dans la bande-annonce du long-métrage, celui-ci devrait être consacré au changement d'attitude de Bernadette, d'abord perçue par le public, et ceux qui la côtoyaient comme glaciale, avant de devenir une première dame appréciée des Français. Dans Bernadette, Catherine Deneuve joue aux côtés de Denis Podalydès, devenu pour l'occasion Bernard Niquet, le directeur de cabinet de Madame Chirac, tandis que l'ancien président de la République est incarné par l'ancien de la Comédie-Française, donc Michel Villarmoz. Ce premier long-métrage tourne à la tragicomédie inspirée par le parcours de l'ancienne première dame. Et donc, comme la réalisatrice nous dit, quand j'ai lu le scénario, j'ai compris qu'il s'agissait de l'histoire d'une femme qui sort de sa gangue et acquiert au fil du temps une force et une liberté. Le film n'est pas une reconstitution, mais il se fonde dans des situations réelles. Il ne s'est jamais agi de la copier, mais de s'en inspirer, explique Catherine Deneuve à Libération. À l'époque, le film s'appelait encore La Tortue, surnom affectueux que Jacques Chirac donnait à son épouse. Oui.
C'est pas joli, joli.
Ah non, je crois que c'était La Torture. Non, pardon, j'ai même compris. Oh, pardon, mais elle coupe pas, Maxima. La Tortue, c'est encore pire.
Oui, c'est ça.
En grande passionnée de politique, la réalisatrice Léa Doménac, fille de Nicolas Doménac, chroniqueur et auteur de plusieurs biographies de Jacques Chirac, s'attarde sur la manière dont amour et pouvoir s'entremêlent dans la vie de cette première dame, la seule à avoir également exercé des responsabilités électives. Sur les réseaux sociaux, le buzz dépasse les frontières. Certains internautes anglophones l'ont qualifié de French Barbie. Alors, je suis sûr qu'elle va adorer Bernadette, en référence au film de Greta Gerwig. Il n'est pas au goût de Claude Chirac. Hein. Dans les colonnes du Paris Match, la fille de Jacques et Bernadette reproche à la production de ne pas l'avoir consulté avant de se lancer dans ce projet de film, ni même d'avoir tenu compte du fait que Bernadette Chirac était toujours en vie. Oui, mais tout le monde le sait, Claude.
Eh oui.
On va pas l'enterrer, ta maman. Avec ou sans son consentement, le film sortira en salle le 4 octobre. Moi, j'adore la chute. Ouais. J'adore la chute. Voilà, un film étrange. Bah oui, mais ça fait partie du monde du cinéma. Hein, de temps en temps, ah, oui. Il y a des films un peu comme ça qui sortent un petit peu du lot. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, moi, franchement, quand je vois Denis Podalydès et Michel Villarmoz, je dis, ça va quand même déménager un peu, quand même.
Je pense qu'on va passer un excellent moment.
Et d'ailleurs, le film maintenant, c'est excellent.
Ouais.
Parce que justement, elle est assise à une table et tu as Villarmoz et Podalydès, en fait, qui sont en train de lui expliquer qu'en fait, elle n'est pas aimée du tout. On vous trouve glaciale, ringarde et compagnie. Ben, tu vois, et comment je l'expliquer là,
tous les mauvais côtés.
Non, ouais, oui. Donc, je trouve que c'est. Oui, à mon avis, c'est un film comique.
Ouais.
C'est un film comique, bien sûr. C'est un truc qui n'a pas trop prononcé sérieux non plus. Hein. Donc voilà, Bernadette à découvrir en avant-première à la Brèche cette semaine.
Et puis on y sera. On y sera. Et justement, on va revenir sur l'acteur que tu as choisi cette semaine, qu'on va retrouver dans Bernadette, et qu'on a vu d'ailleurs dans certains films, des grands films, hein, notamment J'accuse, mais on va reparler dans quelques secondes. Voilà, donc c'est un artiste qu'on
Michel Villarmoz, alors oui, si ça vous dit pas là, à travers le micro, mais écoutez, regardez un petit peu sur
vous l'avez certainement vu
sur le net, vous l'avez automatiquement croisé quelque part dans un film. Il a fait 128 films et séries.
Ouais.
128, c'est pour ça que je fais un petit éclairage là sur sa carrière, parce que c'est pas rien, 128 films et séries tournées. Mais hélas, il a reçu que 2 nominations. Et Michel Villarmoz, c'est 33 années de carrière quand même. 128 films et séries tournées et 2 nominations. Donc il est acteur et scénariste. Il est né le 18 décembre 1963 à Orléans. Ce qui nous fait un jeune homme de 59 ans. Alors on le voit apparaître pour la première fois dans un film de Sébastien Grall avec Eddie Mitchell et Guy Marchand en 88. Un père y passe. C'est un vieux film, moi je m'en souviens de ce film-là.
Je ne me rappelle plus.
En 90, on le verra dans ce grand film de Jean-Paul Rapneau avec Gérard Depardieu et Anne Brochet. En 90, donc, Cyrano de Bergerac.
Ah oui.
En 96, grand film, La Berre du Pontel, avec Roland Blanche et Claude Piron. Bernie. En 2004, très grand film de Jean-Pierre Jeunet avec Audrey Tautou et Gaspard Ulliel. Feu Gaspard Ulliel, entre parenthèses, hein, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Trop rapidement. Un long dimanche de fiançailles. En 2006, on le verra dans 4 étoiles de Christian Vincent avec Isabelle Carré et José Garcia. En 2010, on le verra apparaître dans La princesse de Montpensier de Bertrand Tavernier avec Mélanie Thierry, Lambert Wilson et une pléiade d'acteurs absolument immense. En 2011, on le verra dans Camille Redouble de Noémie Lvovsky avec Samir Ghemi et Judith Kemla. En 2013, Jamais le premier soir de Mélissa Drijard avec Alexandra Lamy et Mélanie Douté. En 2017, on le verra dans Garde alternée d'Alexandra Leclerc avec Didier Bourdon et Valérie Bonneton. En 2019, oui, je l'avais dit, J'accuse.
Eh oui.
De Roman Polanski avec Jean Dujardin et Louise Garrel. Et en 2020, on le verra apparaître dans Adieu les cons d'Albert Dupontel et avec Virginie Efira et Nicolas Marié. Et oui, il gravite tout. Souvent dans l'univers de Dupontel, Jeunet,
ouais, c'est
tout
un petit peu le même cas de figure. Hein, quand on les voit, Dupontel et, oui. Et lui, on dirait que c'est les deux frangins.
Quand
Il
faut des fois, on va dire, imager la France, ouais. La vieille France, tout ça, on le voit de temps en temps apparaître. Quoi. Donc, Michel Villarmoz.
Qui es-tu ?
Qui es-tu ? Qu'as-tu fait ? D'où viens-tu ? Donc, élève conservatoire national supérieur d'art dramatique de 86 à 89. Michel Villarmoz fait son première apparition au cinéma en 89 dans un film sur le théâtre, La bande des quatre de Rivette. Lié à d'autres anciens du conservatoire comme Isabelle Candelier et Denis Podalydès, il tourne dans des comédies décalées réalisées par le frère de ces derniers, Bruno Podalydès, comme Versailles, Rive Gauche et Dieu seul me voit, et dans un autre film de troupe, Comment je me suis disputé de Desplechin. Avec son air tantôt ahuri, tantôt inquiétant, Michel Villarmoz est aussi une figure familière de l'univers absurde d'Albert Dupontel et on le retrouve dans plusieurs films à l'humour macabre comme Serial Lover et Des Nouvelles du Bon Dieu. Au milieu des années 90, Michel Villarmoz triomphe sur les planches dans André le Magnifique, une création collective écrite et mise en scène par les acteurs parmi lesquels figure Isabelle Candelier. Il y interprète le rôle titre, celui d'un jardinier simplet engagé comme souffleur dans un théâtre de province et sera également le héros de l'adaptation cinématographique tirée du spectacle en 2000. Devenu pensionnaire de la Comédie Française en 2003, ce comédien singulier de plus en plus sollicité par le cinéma prend bientôt part à de grandes productions. Il est l'assistant du professeur dans « Bon voyage » de Rapneau en 2003, puis un barman dans « Un lent dimanche de fiançailles » de Jean-Pierre Jeunet en 2004. Michel Villarmoz se consacre alors au théâtre où il interprète notamment « Cyrano de Bergerac », mise en scène par Denis Podalydès. Devenu sociétaire de la Comédie Française à partir de 2007, il se fait alors plus discret au cinéma, toujours fidèle au frère Podalydès, donc comme dans Le Parfum de la Dame en Noir et Banc Public, Versailles, Rive Droite, il sait aussi se diversifier en participant à la production hollywoodienne Reviens-moi. Se cantonnant majoritairement à des rôles secondaires, ses apparitions furtives mais souvent décalées restent rarement inaperçues, comme dans Gentille ou Les Herbes Folles. Et oui, parce que souvent on le voit, oui, il a des rôles secondaires, mais il mériterait d'être devant. C'est un très très bon acteur, Michel Villarmoz. Là, voilà pourquoi je voulais faire une petite,
un petit. Ah, c'était important d'avoir un éclairage dessus.
Il y a pas de raison.
Homme de théâtre et également.
Quand je le vois, je trouve qu'à chaque fois, il est pile poil dans son personnage. Il a vraiment la gueule de l'emploi et il est convaincant.
Ouais.
Il est super convaincant, Michel Villarmoz. Donc voilà, c'est pas parce qu'ils allaient avoir des rôles secondaires que je vais pas en parler.
Mais c'est, en tout cas, c'est bien juste et tu as tout à fait raison, mon cher Pascal. On arrive au terme de l'émission. Merci pour ces présentations, comme d'habitude, toujours tirées à quatre épingles. Il y avait des papiers partout.
Ouais, c'est vrai que c'est un peu le bazar aujourd'hui, parce que j'ai cherché.
C'est de l'acrobatie, hein, c'est comme le cinéma.
Ouais, t'as vu, en fait.
On jongle.
T'as remarqué qu'il me faut un canapé à moi tout seul. Il y en a partout.
On va pas t'inviter à l'émission de Drucker, hein. Tu sais qu'il revient, hein, sur la 2.
Michel Drucker?
Ouais.
C'est vrai?
Oui.
C'est pas un avatar?
Ah non,
c'est vraiment lui.
C'est lui.
Oh mon Dieu.
Et le canapé d'accord. Est toujours là.
Ah d'accord, ok. Je lui souhaite bon courage et surtout de la santé. Hein.
Ah oui.
Parce que commence à...
Il commence à... La passion,
Oui, je sais que je l'ai vu une fois, il disait, je ne supporterais pas d'arrêter. Oui, c'est un crève-cœur pour lui d'arrêter la télé. Mais c'est marrant parce que quand j'étais gamin, il y avait Michel Drucker. Maintenant, je suis devenu vieux schnock. Il y a encore Michel Drucker. Tu te dis, mon Michel Drucker, tu manges quoi? Tu bois quoi? Qu'est-ce que tu prends tous les matins au petit déjeuner? C'est étonnant.
Voilà, Michel, si ça. Tu nous écoutes, on t'embrasse.
Ouais, ouais. Et tu, ouais, tu peux venir nous apporter la réponse aussi. Oui, la fontaine d'où je pense.
Allez, Pascal, je te laisse le mot de la fin.
Ouais, Christophe, ben oui, oui, à très bientôt. Eh bien, prenez soin des vôtres. Regardez-moi la télé. Écoutez Gras du Grand Air et ben, venez au ciné, venez nous voir, venez découvrir le festival Pay It Again. Il y a plein de choses à voir. Hein. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine cinématographique. À très bientôt. À très bientôt, Christophe.
À très vite.